Bonjour bien-aimé. Seigneur, en retour, reçois notre amour. Ce matin, je voulais prolonger une méditation qui nous a été apportée ce mardi par notre sœur Rachel. Voilà quelques dimanches que nous parlons de cette réalité, de ce que nous sommes en tant que chrétiens. Vivre ce que nous sommes, la joie d'être chrétien, de contribuer à l'évangile de Jésus-Christ, la joie d'être enfant de Dieu, rayon de soleil. Nous l'avons médité au travers de Philippiens chapitre 1 et Marc chapitre 10. Une anecdote. Pendant plusieurs dimanches, un pasteur prêchait toujours le même message. Et à chaque fois qu'il citait le texte et qu'il commençait à prêcher, les fidèles étaient un peu... Il n'a pas déjà prêché ça dimanche dernier. Et lui, il était serein, il continuait sa prédication. Vous savez, Des fois, les frères, ils sont gentils, ils ont envie de dire quelque chose au prédicateur, mais à cause de cette politesse évangélique, ils n'osent pas le dire. Et puis, il y a une qui a pris son courage à la fin du culte et qui a accosté le pasteur, elle dit, mais ça fait quand même plusieurs dimanches que tu prêches le même message. T'es fatigué ou quoi? Tu travailles plus les prédications. Que là, tu nous sers du réchauffé. En fait, il attendait que quelqu'un lui pose la question, en fait. Et il a dit, des fois, en tant que prédicateur, on ne sait pas ce que les frères et les sœurs retiennent, en fait. Et ajouter dimanche après dimanche de nouveaux messages, tu ne sais même pas s'ils ont fini de comprendre ce que tu as dit dimanche dernier. S'ils ont commencé, ne serait-ce qu'un début d'application de ce que tu crois que Dieu a mis sur ton cœur pour eux. Parce qu'en fait, en tant que prédicateur, on n'est pas dans une fonction, on n'est pas dans une posture. On a cette humble mission d'essayer d'être porte-parole de Dieu. Dans les églises protestantes, au début de la réforme, on positionnait la chair. Si vous allez dans les vieilles églises protestantes, la chair est tout là-haut perché. C'était l'idée que c'était la parole de Dieu qui avait autorité, qui descendait sur le peuple de Dieu. Et que le peuple de Dieu devait se soumettre à cette parole. C'était cette idée-là. Aujourd'hui, on ne sait pas du tout ce qu'on prêche, on ne sait pas si ça a autorité sur vos vies. Des fois, on se demande si on est bien utile, des fois. Si ce n'est pas juste... une bonne tradition évangélique d'écouter pieusement le messager et puis après de dire, c'était un bon message. Essayons bien-aimés, et moi le premier, essayons d'être attentifs. Si les dimanches, nous faisons tout cet effort pour juste écouter et ne pas commencer à dire « Ah, sur ce petit aspect, Dieu m'a parlé et je veux en faire quelque chose. » On va finir par devenir des religieux, les frères. On va finir par devenir des religieuses, les sœurs. Et c'est ce qu'on a reproché à certaines religions. Elles ont fini par devenir des religions. N'oubliez pas que ces religions-là, elles ont des adeptes. Elles ont des adeptes plus nombreux que nous, en plus. À force de ne pas écouter. Vous savez, quand Jésus dit que celui qui a des oreilles écoute, il dit en fait, écouter c'est bien, mais faire quelque chose avec, c'est mieux. Si les prédicateurs que nous prions, nous, le conseil, et que nous proposons à l'église dimanche après dimanche, s'ils n'ont aucune autorité pour vous, c'est pas grave. Mais franchement, Ça sert à quoi qu'ils aient pas d'autorité si vous avez accepté que ce soit ses frères, en tout cas au travers du conseil, qui viennent parler de la part de Dieu chaque dimanche. Si ça ne vous fait rien, si ça nous fait rien, moi j'ai dit au Seigneur, je suis reconnaissant parce que dans cette église, il y a d'autres prédicateurs que le pasteur. Et quand je suis assis et que ces prédicateurs prêchent, je prends toujours des notes parce que ça me fait du bien. Et j'essaie de mettre en pratique au moins le bout de quelque chose que Dieu m'a dit au travers de chaque prédicateur qui monte ici. Si on sert à rien, il faut nous le dire. Mais c'est pas grave. L'apôtre Pierre dit, de toutes les façons, je vous le redis. Et l'apôtre Paul aussi l'a dit. Donc, on est dans une démarche pédagogique, des fois. On n'est pas fatigué, mais des fois, on a envie de dire, faisons quelque chose de la parole de Dieu, les bien-aimés. Faisons-en quelque chose. Surtout, quand dimanche dernier, j'ai dit une phrase, mais je savais même pas la portée profonde de cette phrase. J'ai dit, il y a des semaines où les nouvelles sont bonnes, et il y a des semaines où les nouvelles sont moins bonnes. Et pendant que je prêchais, en fait, il y avait une nouvelle qui était déjà tombée, qu'on n'avait pas. Frère, préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu peux afficher la diapo. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le peuple d'Israël, dans les psaumes qu'on appelle les psaumes de la montée, c'est des psaumes que le peuple d'Israël chantait lorsqu'il montait à Jérusalem. La grâce que nous avons, dont nous ne réalisons pas la portée, c'est que dans l'économie ancienne, donc dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu n'était manifestée glorieusement que lorsqu'on montait au temple à Jérusalem. C'était qu'au temple que la présence de Dieu était manifestée. Donc, chaque Israélite, pendant la période où il fallait aller au temple, aspirait, attendait ce moment-là pour aller communier à Jérusalem, dans la présence de Dieu, dans ce temple où Dieu a dit à Salomon qu'il ferait résider sa gloire. Donc c'était un moment attendu, c'était un moment spécial. Et le psaume qu'on va méditer ce matin fait partie de ces psaumes-là, à peu près, dans ce sens-là. C'est un pèlerin. N'est-ce pas que le thème du pèlerinage nous parle, n'est-ce pas? Nous sommes qui? Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes des voyageurs. À la différence que nous ne savons pas à quel arrêt nous descendons. C'est pas nous qui décidons de l'arrêt où nous descendons. C'est le conducteur. C'est le conducteur qui décide à l'arrêt où on descend. Mais en tout cas, si vous avez pris le bon ticket, vous avez la bonne destination. Rassurez-vous que vous avez pris le bon ticket. Rassurez-vous que vous êtes dans le bon train qui va à la bonne destination. Ça arrive quelquefois, un peu moins, mais ça arrive où on se trompe de train. Si c'est un TGV, c'est trop tard. Parce que la prochaine destination, elle est bien loin. Quand c'est un bus encore, ça va. Tu peux descendre à l'arrêt prochain et te débrouiller pour reprendre ton bus d'après. Le métro, ça dépend. Ça dépend si on a bien suivi l'affichage lors de notre correspondance. Rassurez-vous que vous avez pris le bon train. Psaume 84. Au chef de cœur, un psaume des Corérites a chanté avec accompagnement de la harpe de Gath. Oh, que j'aime tes demeures éternelles, Seigneur des armées célestes. Je languis, je soupire éternel après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits. Près de tes autels, éternel, Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés, car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière. Veille m'écouter, ô Dieu de Jacob. Toi, ô Dieu, qui nous protège, veille regarder celui que par ton onction tu as établi. Fais-lui bon accueil. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous la tente des méchants. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil. Il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Amen. Ce psaume, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous parle justement de ce psalmiste qui désire quelque chose de profond, désire vivre quelque chose d'intime, vivre quelque chose de spécial avec Dieu. On pourrait dire que c'est l'Ancien Testament et qu'il y avait beaucoup de rites, mais n'oublions pas que ces témoins de l'Ancien Testament, en tout cas ceux qui étaient au service du temple, même s'ils n'étaient pas de la génération qui a vu des choses extraordinaires dans le désert, avaient le témoignage, génération après génération, de ce que Dieu est, de ce que Dieu a fait, la communion de Dieu. Ce temple qui a souffert dans l'histoire, mais en tout cas celui bâti par Salomon, a vécu quelque chose d'exceptionnel lors de son inauguration. Le peuple est venu de partout. Et c'était une grande cérémonie. Et Salomon avait demandé une chose à Dieu. C'est que Dieu se manifeste. Et Dieu a dit, oui, je vais me manifester. Mais sache-le bien. Le jour où ce peuple ne respectera plus mon alliance, ma présence quittera ce temple, car je n'habite pas dans une bâtisse faite de mains d'hommes. Comme pour dire, oui, David l'a souhaité, et j'ai dit que c'est toi qui le ferais, cet édifice, tu l'as construit. Oui, j'ai fait cette promesse de faire manifester ma gloire, mais ma présence ne dépend pas de ce bâtiment. Parce que Dieu savait que le peuple allait s'attacher au bâtiment, et pas à l'alliance. Parce que finalement, dans cette période de l'histoire du peuple de Dieu, on ne jurait que par le temple de Jérusalem. Or, ce n'était pas le temple par lequel il fallait jurer. C'est celui à qui le temple était dédié. Et même quand le peuple, avec ses autorités, ne se conformait plus à l'alliance et que le temple était encore debout et visible, il disait Dieu est présent, parce que le temple est debout, alors que Dieu avait bien dit que si l'alliance était rompue, sa présence quitterait ce bâtiment et ce bâtiment serait un bâtiment comme les autres. Quand vous lisez ce psaume 84, certains commentateurs disent c'est bien d'aller relire aussi le psaume 42. Parce que le psaume 42, c'est à peu près une méditation aussi des cohérites. Et c'est une complainte, mais qui a à peu près la même tournure, mais dans un autre sens. Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, de même je soupire après toi, ô mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je venir et me présenter devant Dieu? Mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits. Sans cesse, on me répète, ton Dieu, où est-il donc? Et ce psaume est un psaume où le psalmiste cherche la présence de Dieu dans un moment difficile. Dans un moment où il se sent abandonné, à la fin il dit, tout le monde se moque de moi, mais je veux que tu retiennes une chose, mon âme, demeure en Dieu. Demeure en Dieu. Au verset 12 de ce psaume 42, il dit, « Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue? Et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore, mon sauveur et mon Dieu, mets ton espoir en Dieu. » Même si dans les situations de ce psaume 42, le psalmiste ne sentait plus la présence de Dieu, se sentait un peu seul, il dit à son âme, c'est pas grave, Dieu n'est pas loin. Dieu n'est jamais loin. Continue d'espérer en ton Dieu. Alors qu'au verset 11 dit, mes membres sont meurtris, mes ennemis m'assaillent, m'insultent, sans cesse, ils me demandent, ton Dieu, où est-il donc? Ton Dieu, où est-il donc? Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu? La Bible dit que le corps retourne à la poussière et l'âme retourne à qui? À Dieu, son Créateur. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Notre âme aspire à la présence de Dieu. C'est ce que le psalmiste dit. Il fait retentir l'éloge de la demeure céleste. Il y a ce chant en anglais. Mon anglais n'est pas très bon, mais ça retentit comme ça. Oh, when the saints, imagine, quand les saints sont en train de marcher pour rejoindre la gloire céleste. Oh Dieu, je veux faire partie de ce nombre de ces saints. Je veux faire partie du nombre de ces saints et marcher vers cette demeure céleste. Il dit que tout son être, son cœur, sa chair, tout ce qui est intime à lui, soupire, languit. Vous savez, languit, c'est quelque chose que tu attends, que tu espères, que tu veux voir, pour lequel tu, vraiment, toute ton énergie est captivée par ça. Tu attends et tu es motivé par cela. C'est le Dieu vivant. Il nous communique cette soif profonde de Dieu dans la communion de son temple. Et il envie ceux qui demeurent dans la maison de Dieu. Il envie ceux qui demeurent dans la maison de Dieu. Quelqu'un dit des fois, nous ne savons pas où nous sommes en fait. Nous ne sommes pas la maison de qui. Et j'ai dit cela, le message de dimanche dernier, la maisonnée de Dieu, la maison de Dieu, l'habitation de Dieu. Lui, ce psalmiste, dans cette économie de l'Ancien Testament, il enviait ceux qui faisaient le service dans le temple. Parce qu'il dit ceux-là, waouh, ils sont dans ce lieu symbolique de la présence de Dieu, ils bénéficient pendant leur service quasi quotidien de cette présence-là. Ils sont là-bas. Nous, on est loin, on est dans nos campagnes, dans nos villes. Mais eux, ils sont au service du temple. Quel privilège. Et lui, il a soif de cette communion avec Dieu. As-tu soif de la communion avec Dieu, mon frère? As-tu soif de la communion avec Dieu, ma sœur? Car dit que Dieu est un Dieu vivant, ça veut dire qu'il existe et que sa réalité, elle est quotidienne. Sinon c'est une affabulation, sinon c'est de la vapeur. Si Dieu n'est pas vivant et que nous n'aspirons pas à communier avec lui, peut-être que nous nous trompons nous-mêmes. Mais si c'est vrai qu'il est un Dieu vivant et que sa présence, ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu, c'est-à-dire qu'il est toujours présent et qu'il désire par la venue de son Fils, mort, ressuscité et monté en gloire, qui nous a promis qui ? L'Esprit Saint, il est présent. Il désire communier. La joie de la maison de Dieu, dans ces premiers versets, verset 1, verset 5, la joie de la maison de Dieu. Cette attente haletante, cette attente passionnante, cette attente profonde dans laquelle espère ce pèlerin. Toute son énergie est captée par le jour où il va arriver à Jérusalem, où enfin il va pouvoir communier dans le temple avec son Dieu. Et nous là, chrétiens du 21e siècle, chrétiens sauvés par Dieu après l'œuvre expiatoire de Christ, avait dit que sa présence est là, quasi quotidienne. Quasi quotidienne, bien-aimé. Aspires-tu à communier avec ton Dieu dans la maison de ton Dieu? Il dit, je chante de joie. Dans d'autres versions, je crie de joie. Explosion de bonheur dans cette communion avec Dieu. Que Dieu nous aide. Que nous puissions, en tant que chrétiens, ne pas nous lasser. Ne pas nous lasser de soupirer après la présence de notre Dieu, de demeurer dans cette présence, de vivre cette présence, de communier avec lui. C'est Dieu vivant. À la fin de cette première session, il dit, bienheureux ceux qui habitent dans ta maison. Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison. Heureux ceux qui habitent dans ta maison. Et nous, on vit spirituellement quelque chose de tout à fait inédit. Ce n'est pas nous qui allons habiter dans la maison de Dieu, c'est Dieu qui vient habiter en nous. La Bible dit qu'il vient tabernacler, il vient faire sa présence dans chaque croyant. Wow. Ce que ces pèlerins n'avaient pas, nous l'avons. Ils avaient, eux, besoin d'aller jusqu'au temple à Jérusalem pour vivre une communion avec Dieu. Or, le chrétien, depuis l'avènement du Fils de Dieu, et c'est ce qu'il a montré à ses disciples, dans l'épisode qu'on appelle la transfiguration, Pierre dit, restons ici, Seigneur. Parce que Pierre a vécu quelque chose qu'on n'avait jamais. Il a vu cette gloire de Dieu, cette présence délicate du Seigneur. Il a dit, waouh, on ne descend plus. On reste sur cette colline, Seigneur, pour toute la vie. Jésus dit, mais non, on n'a pas fini. Puis on va redescendre, on a du travail. Mais il avait instauré que cette communion, tout chrétien peut la désirer et la vivre. Vous savez, cette communion, elle n'est pas magique, elle n'est pas mystique. Elle est donnée à chacun d'entre nous. Il suffit de, comme le psalmiste, de soupirer après ces choses et de passer du temps dans la méditation, dans la prière. Quels que soient les moments de la journée, on peut vivre ce temps avec Dieu. C'est comme cela seulement que Dieu se manifeste à nous comme le Dieu vivant. Le psalmiste annonce les joyeux privilèges et les grands bienfaits de la manifestation de cette présence de Dieu. Verset 6, bienheureux les hommes dont tu es la force. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, qui est transformée ici par la vallée des larmes, ils en font une oasis. C'est-à-dire que le pèlerin, dans l'image concrète de cette marche, ils n'avaient pas de véhicule à l'époque, ils marchaient, c'était des kilomètres pour aller à Jérusalem. Ils traversaient des fois cette vallée qui était une vallée sèche, aride, avec un vent chaud. Et ça pouvait les décourager d'aller à Jérusalem. Ils pouvaient dire, ah là, j'y arrive plus, c'est bon, je retourne de là d'où je suis venu. Mais ils disent, mais non, à cause de cette soif de vivre cette communion avec Dieu, même cette vallée de Baca ne nous découragera pas. Au contraire, on avance, on ne recule pas. Fixant les regards vers Christ, c'est quelqu'un qui l'a dit, je fais quoi? J'avance. Ne considérant plus ce qui est derrière, mais fixant les regards vers Christ, j'avance. Car ce qui m'intéresse, c'est de faire quoi? C'est de vivre la communion en sa vie, mais aussi en sa mort. Pour qu'un jour, vu qu'il est ressuscité, je sois aussi avec lui, dans le ciel de gloire. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai couru la bonne course, j'ai gardé la foi, et je suis arrivé à la ligne d'arrivée. Et je sais que la couronne de victoire m'est réservée. Il dit, non pas pour moi tout seul, mais pour tous ceux qui, comme moi, ont cette même espérance et qui ne s'arrêtent pas, qui ne se laissent pas décourager, mais qui avancent.
Amen.
Qui avancent. Qui avancent. La bénédiction accompagne ceux qui tirent en Dieu leur force, car quand les épreuves de la vie sont là, quand la vallée de Baca est là, quand cette sécheresse aride, des moments difficiles, des moments torrides, des moments comme ceux que nous vivons depuis dimanche dernier, où il y a des interrogations sur ce départ de ce bien-aimé, c'est des moments particuliers. C'est des vallées qui peuvent s'apparenter à la vallée de Baca, des larmes, comme nous l'a bien encouragé notre sœur, mardi dernier. Ces larmes que nous semons, ces larmes que nous versons, sont des larmes desquelles vont jaillir la force que Dieu va nous donner, et Dieu va les transformer en croissance, car on grandit souvent en passant par la difficulté aussi. C'est pour ça que le mot épreuve est synonyme du mot difficulté. Une épreuve, c'est un examen. Pour gravir parfois des échelons ou des niveaux, ou pour avancer dans son parcours d'étudiant ou d'écolier, on passe des épreuves, on passe des examens, on franchit des paliers. Et des fois, dans la vie, à cause du fait que nous sommes dans un monde pécheur, les épreuves sont là. Mais lorsque ces épreuves nous assaillent, heureux les hommes dont tu es la force. Verset 6. Quand ces épreuves sont là, il faut puiser nos forces en l'Éternel. Il faut puiser notre force dans notre communion avec Dieu. Il faut aller chercher cette force-là. Et quand on la trouve, elle transforme cette vallée de Baca en oasis, donc en des sources d'eau vive. Il dit même la pluie de l'automne vient pour arroser cette vallée qui était aride. Parce que Dieu, il est content lorsque ses enfants tiennent bon dans l'épreuve et qu'il la traverse en comptant sur lui. Car c'est lui qui est le consommateur de la foi. Quand il voit la foi, ça le réjouit. Ça nous rappelle quelqu'un qui a payé cher cette confiance en Dieu, qui a goûté une vallée de Baca impitoyable. Ça s'appelle Job. C'est pour ça que certains théologiens ne sont pas rassurés, peut-être qu'ils ont tort, que Job est un vrai homme. Ils pensent que Job est une parabole.
comme la parabole du riche et du pauvre Lazare. Parce qu'ils disent, un homme peut-il supporter ce que Job a supporté? Et au soir de ce qui lui est arrivé, il a eu qu'une seule expression, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que la gloire soit à l'Éternel.
Amen.
Wow. Mais c'est un homme. Il a dit sa confiance, mais cette confiance a été mise à mal après. Hein? Après avoir dit ça, et qu'il a commencé à vivre les douleurs de tous ses souvenirs de ses enfants disparus. Parce que n'oubliez pas, il a perdu tous ses enfants. Quand on perd quelqu'un, ce qui est plus dur, c'est les souvenirs. La présence de la personne. Les images nous repassent. Les images sont là. Elles s'accrochent à nous. On s'accroche à elles. Et dans ces moments-là, c'est pas simple. En plus, d'après le test de Job, il était aussi malade. D'une maladie terrible. Dont la description vous laisse sans mots. Et là, il tient toujours. Il ne maudit pas Dieu. Mais comment ça dit? Pourquoi tu as laissé ma naissance même venir? Il aurait fallu, parce que je ne suis rien du tout. Je ne suis rien du tout. Il aurait fallu que tu ne me laisses même pas naître. Je ne suis rien du tout. Pourquoi tu t'intéresses tant à moi au point où tu me fais ça? Mais ce n'est pas à toi que j'en veux. J'en veux au jour de ma naissance. Bref, il a traversé cette vallée du Baca. Il a traversé non sans peine. Avec des amis à lui qui ne lui ont pas facilité les choses. Mais ils n'avaient pas... Ne jugeons pas trop sévèrement ces amis-là. Souvent, nous ressemblons à ces amis-là. Souvent, nous ressemblons à ces amis-là. Parce qu'on est tous des théologiens et on a tous nos théologies quand quelqu'un vit quelque chose. Donc, on veut lui expliquer. Toi, tu sais pas, mais on va t'expliquer en fait ce que tu veux. Parce que nous, on a la révélation que toi, tu n'as pas. Et là, on commence à expliquer au frère ou à la sœur. J'ai appris avec sagesse que quand je n'ai pas d'explication, le silence est mieux. Le silence est mieux. Et ça, dans le service de pasteur que je suis, c'est les choses les plus difficiles. Évangéliser, voir quelqu'un venir à la vie chrétienne, tu dis, waouh, Jésus, tu fais encore des miracles, tu sauves des vies, alléluia. Accompagner ces personnes au baptême, c'est vraiment quelque chose de très intense, de très fort dans la foi chrétienne. De voir des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, dire oui pour Jésus, dans un monde où tout le monde dit Jésus, c'est plus important. Tu dis, waouh, Dieu, tu es présent, tu es vivant, tu fais encore des miracles. Voir des personnes qui s'aiment et qui vous demandent de les accompagner au mariage, tu dis, waouh, merci Seigneur, parce qu'il y a l'amour qui est là, qui est vrai. On accompagne des gens, la cérémonie, elle est là. Incroyable. Mais dire au revoir à quelqu'un, c'est difficile. Des fois, j'ai été invité en tant que pasteur conduit des obsèques de personnes que je ne connaissais même pas. Et tu côtoies comme ça la mort de gens que tu connais, des gens que tu ne connais pas, et tu dois dire quelque chose dans ce moment-là. Tu ne sais pas ce que ça veut faire aux gens, tu ne sais pas du tout. C'est des moments du ministère qui sont, en tout cas, me concernant, qui sont les plus spéciaux. Tu sais pas. Je sais pas. Si c'est des gens que tu connais, c'est encore plus spécial. Spécial dans deux sens. Spécial dans le sens que nous sommes des pèlerins. et que tout chrétien doit être convaincu qu'il est un pèlerin et que l'itinéraire de son voyage est important, mais ce qui est plus important, c'est qu'il arrive à la bonne destination. Parce que les bien-aimés, si on a pris un véhicule, si on a pris un train, si on a pris un avion, c'est pour aller quelque part. Ça paraît évident. Si l'avion s'arrête en l'air, je ne le souhaite pas. On a un de nos garçons qui ne souhaite pas regarder les films où les avions sont toujours en catastrophe. Parce qu'il dit de tout, on est obligé de monter dedans et moi je ne préfère pas regarder ce genre de film. Parce que le jour où je suis dedans, ça peut tourner dans ma tête. Et il a bien raison. Quand, comme il y a quelques jours, ce train avec cette alerte terroriste a été arrêté pendant 1h30, ce n'était pas leur destination. Ils ont dû attendre pour plus tard remonter dans le train et rejoindre leur destination. Donc, des fois, comme ce pèlerin, quelle est notre destination, bien-aimé, finalement, en tant que chrétien? Quelle est notre destination? L'apôtre Paul dit, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire que tout ce que nous croyons est faux et que nous nous trompons nous-mêmes. Si notre espérance est basée au fait que Christ a payé le prix pour nous, qu'il est mort bien plus, qu'il est ressuscité bien plus, qu'il a été glorifié, qu'il est monté aux cieux et qu'il est assis à la droite de Dieu le Père et qu'il a dit, je vais vous préparer une place. Qu'elle sera prête, je ferai quoi? Je viendrai vous chercher pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Bon, si c'est des paroles que nous récitons, donc on se blague nous-mêmes. Donc on se trompe nous-mêmes. Mais si c'est vrai, c'est ça le premier aspect quand nous sommes confrontés à ces départs des chrétiens. Le premier aspect, c'est ça. C'est de redire notre espérance. Notre espérance en tant que pèlerin, c'est d'être un jour avec notre Seigneur, là où il n'y a plus de maladie, là où il n'y a plus de pleurs, là où il n'y a plus de grincement de dents, là où il n'y a plus de souffrance, là où tout est parfait.
Amen.
Paradis, c'est la demeure de Dieu. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. C'est là-bas que nous allons, les bien-aimés. C'est là-bas que nous allons. Donc, quand un bien-aimé nous quitte, il est déjà rentré dans la félicité éternelle. Alléluia!
Amen.
C'est ça qui doit nous animer en premier, même si tout de suite après, la douleur de la séparation va nous envahir. Mais si ça ne nous anime pas en premier, ça veut dire que nous sommes en train de nous raconter des histoires nous-mêmes. Ça veut dire que nous sommes en train de nous raconter des histoires. Et moi, le premier. Que Dieu nous aide. Le pèlerin, il sait où il va. Il sait où il va. C'est pour cela qu'il résiste, même dans la vallée de Baca. Et que finalement, à cause de cette confiance qu'il a mis en Dieu, Dieu transforme cette vallée en oasis. Où il peut dire, Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière, veille m'écouter, ô Dieu de Jacob. Ce pèlerinage, à la fin, il est couronné par la rencontre du Seigneur, par la communion avec Dieu. Et cette communion, elle commence déjà ici. Et c'est ce qu'il nous a dit dans le premier mouvement de ce psaume, verset 1 à verset 5. Je désire, je soupire, je languis après ta présence dans tes parvis. Et quand le jour de cette rencontre arrive, on va être malheureux. Oui, on va être malheureux à cause de la séparation. Mais que cette séparation, cette douleur n'enlève pas la force de l'espérance. L'apôtre Paul dit, de loin, si on me demandait qu'est-ce que tu veux, il dit, je dirais, je veux être maintenant à l'instant rentrer dans la félicité éternelle. Il dit, mais comme je sais que j'ai encore une petite bout de travail à faire avec ceux qui restent, je vais rester pour finir ce travail. Mais quand l'heure de mon départ viendra, je sais que c'est mieux d'être là-bas que d'être ici. Bien-aimé, je vous ai dit dimanche dernier, si Dieu est cet artiste qui a créé cet univers dans lequel nous vivons, qui a créé toutes ces belles choses dont nous jouissons, qu'a-t-il réservé? Qu'a-t-il réservé dans la création, là où il n'y a plus de corruption, là où il n'y a plus de péché, là où il n'y a plus de douleur? Qu'a-t-il réservé? Oh! C'est ça que ceux qui partent découvrent comme ce pèlerin émerveillé. Vous savez, ce pèlerin, on dit, certains commentateurs disent, c'est comme un pèlerin qui est jamais, c'est sa première montée à Jérusalem. Il a jamais encore été au temple. Il a jamais encore communié dans ce temple. Et donc, quand il arrive à ce temple, il est émerveillé par ce qu'il voit. Moi, je pense que c'est ça. Comme nous disait Rachel, avec cette image de l'échelle de Jacob. Mais Jésus lui-même nous l'a dit, n'est-ce pas? Il a dit cela dans la parabole du riche et du pauvre Lazare. Du pauvre, il dit, le pauvre est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges sont venus le chercher. Alléluia. Les anges sont venus le chercher et il est rentré dans le sein d'Abraham avec la félicité. C'est là-bas que nous allons. C'est là-bas que nous allons. C'est là-bas que nous allons. Mais ce n'est pas à nous de décider si c'est l'heure d'y aller. C'est lui qui décide. C'est pour ça que Jésus a dit, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de le garder pendant qu'ils sont encore dans le monde. Ça, c'est moi qui le dis. Mais je ne sais pas si les théologiens me suivront, mais il me semble que oui, ultimement, cette parole de Jésus, je vais vous préparer une place, quand elle sera prête, je viendrai vous chercher, à deux portées. La portée, la première, c'est qu'à un moment donné, Jésus reviendra. Ça s'appelle Maranatha, Jésus revient bientôt. Donc son deuxième retour, pour enlever. Mais il me semble que la portée seconde, c'est que à chaque fois que la place d'un chrétien est prête, Jésus vient le chercher. Jésus vient le chercher. Si cette joie de rencontrer le Seigneur ne nous anime pas, franchement, demandons à Dieu de nous visiter. Demandons à Dieu de nous visiter. Demandons à Dieu de nous visiter. Je reste marqué encore, il viendra prêcher ici dimanche prochain par le départ de l'épouse de ce serviteur de Dieu. Son pronostic vital était engagé, elle a servi le Seigneur d'une façon incroyable avec les dons et les talents qu'elle avait. C'était ici, c'est ici en France, c'est pas loin de chez nous. Et puis elle a eu cette maladie et finalement elle a eu deux rémissions. La première, le Seigneur lui a donné une rallonge. Et puis la deuxième, elle a dit, on était avec elle dans son salon, avec son mari. Et la maladie était bien déjà là. Et on priait pour elle. Elle a dit, cette fois-ci je dis à Dieu, si tu penses que je suis encore utile, tu me donneras d'être remise. Mais si mon travail est fini, bah écoute, je suis prêt. Oh, je suis prête. Je suis prête. Elle a préparé sa cérémonie avec son mari avant de partir. Elle a choisi les chants qu'elle voulait qu'on chante. Oh, incroyable. Je ne sais pas. J'arrive même pas à imaginer que j'admire la force de tous ces aînés, de toutes ces personnes qui partent comme ça. Et ça me fait un peu peur parce que je dis, mais Serge, est-ce que toi, tu as cette confiance-là? Est-ce que tu as une confiance comme celle-là? Que le paradis est vraiment ce qui existe et qu'à la fin, on va au paradis. Si le chrétien n'a pas cette confiance, waouh, on est bien embêté. On est bien embêté. On n'est pas suicidaire, non. On aime la vie. Parce qu'on aime la vie, on aime que Dieu soit dans notre affaire et quand il décide, c'est lui le maître de la vie, n'est-ce pas? Que Dieu nous aide. Toi, ô Dieu qui nous protège, veille regarder. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Il dit, puisqu'un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs, ce que je désire, c'est d'être toujours avec toi plutôt que d'être dans les affaires de ceux qui ne te craignent pas. Verset 11. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. Le soleil, vous savez, on dit que si ce soleil n'existait pas, notre univers n'aurait pas la vie. Puisqu'on dit que les systèmes dans l'univers sont liés toujours à un astre. Et le nôtre, il est lié au soleil. Donc, notre univers à nous est régi par cet astre qu'on appelle le soleil. Et c'est grâce à lui qu'on a tout cet environnement de vie. Dieu est pour nous comme un soleil. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui. C'est lui-même qui nous a dit, aimez même vos ennemis. C'est lui qui nous a dit ça. Parce que lui, il a fait. À la croix, il a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il dit ça de ses bourreaux qui l'ont accusé à tort, qui l'ont malmené, qui l'ont maltraité et qui l'ont cloué comme un vulgaire brigand, un vulgaire criminel, qui l'ont insulté et qui ont dit, si tu es le roi des Juifs, descends de cette croix, toi qui as sauvé tellement de gens, tu ne veux pas te sauver toi-même? Comme un mouton qu'on mène à l'abattoir, il n'a pas dit un seul mot. Parce que c'est pour cette journée-là qu'il est venu. Bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Voilà comment le psaume se finit. Bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Que Dieu nous aide. Patricia l'a dit tout à l'heure dans sa présidence, les amis, les frères, arrêtons et marchons avec le Seigneur. Il n'y a pas de plus beau projet que ce que le Seigneur nous propose. C'est un projet d'amour. Prenez soin des gens que vous aimez. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prends soin des gens que tu aimes, car demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui qui est pour toi. Le lendemain, t'en sers à rien. Chaque jour qui se lève, c'est une grâce de Dieu. Chaque jour qui se lève, c'est une grâce de Dieu. Parce que les bien-aimés, chaque jour, il y a des gens qui m'aiment. Et qui on est pour mériter mieux que qui on est? Il y a des gens sains, sans maladie, bien portants, qui sont sortis le matin et qui ne sont pas rentrés le soir. Qui on est? C'est la grâce de Dieu. Prenez soin des gens que vous aimez. Selon la parole de Dieu, prenez soin des gens que vous aimez, les frères. Parce que quand Dieu va les rappeler, ils sont déjà partis. Pour ne pas avoir des regrets, prenez soin des gens que vous aimez, les frères. L'artiste a dit, vivons chaque jour comme si c'était le dernier. Prenez soin des gens que vous aimez. Prenons soin des gens que vous aimez. Ah, la dernière diapo, et on va finir par là. Vas-y encore, à la fin. Voilà. À cause de toutes ces choses. Et pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite. À la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu. À la vraie connaissance de Dieu, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, l'attachement à Dieu. À l'attachement à Dieu, l'affection fraternelle. À l'affection fraternelle, l'amour. L'amour. J'ai un guide qui fait 4 pages. J'aimerais tellement que chacun puisse le voir. C'est un guide avec un certain nombre de questions. Le premier volet de ce guide, c'est « Comment aimes-tu le Seigneur ?» Et on te pose un certain nombre de questions et tu dois cocher. Le deuxième, c'est « Comment tu aimes ton prochain ?» Et ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, j'aime ce genre de guide parce que ça me donne une photo à un moment donné. Et je sais où je suis et j'essaie de progresser. J'y arrive pas toujours. Mais au moins, vous savez, si on n'évalue pas loin, on est, comment on sait qu'on progresse ou qu'on ne progresse pas? Comment on sait? Mais je termine par cela. Si tous les prédicateurs qui viennent ici n'ont pas d'autorité, considérez au moins qu'ils parlent de la part de Dieu et qu'ils interprètent la Bible pour chacun de nous et que si Dieu le fait chaque dimanche, il y a une bonne raison. Écoutons, prenons ce qui est pour nous, mais surtout pratiquons. Pratiquons. Préparons-nous à la rencontre de Dieu. Mais c'est tous les jours que Dieu veut nous rencontrer. Tous les jours. Tous les jours. Que Dieu nous fortifie. Amen.
Sans transition, je vais inviter les musiciens à revenir. Nous allons nous lever. Heureux l'homme qui se confie en toi, Seigneur. Et nous tous qui reflétons, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, qui sont passés par la nouvelle naissance, à visage découvert comme dans un miroir, nous sommes transformés à son image, transfigurés de gloire en gloire. Nous allons chanter ce dernier chant avant de passer aux offrandes. C'est Julie qui nous passera le panier. Chantons, bien-aimés, nous tous qui reflétons. Ce matin, à fixer nos regards sur le Seigneur. Nous sommes ici-bas des pèlerins, alors marchons les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, présent en toutes circonstances pour nous aider, nous consoler, nous soutenir, pour nous aider à le glorifier, à le louer, à l'adorer. tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de de notre Dieu, merveilleux Seigneur, qui a fait de nous des créatures merveilleuses en Jésus-Christ. Nous fixons nos regards. Merci Seigneur.